Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Parce qu'il y a la COVID, il y a aussi des COVIDios. C'est comme ça qu'on appelle les tatas, les taouins, les crapets soleil, les nonos, les pas de tête, les pas de jugement, qui continuent à se comporter comme s'il n'y avait pas de pandémie, comme s'il n'y avait pas de virus virulent. Et ça, ce genre de comportement-là, ça met mon prochain invité complètement hors de lui. C'est Jean-Michel Dufaux, chroniqueur, animateur, auteur, qui est avec nous tous les lundis. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Sophie, bon lundi.
Écoute, toi qui es monsieur café, qui a fait, tu sais, des livres, vraiment ta passion pour les cafés, des fois, ces jours-ci, quand tu vas dans des petits cafés, il y a des gens qui se comportent comme des taouins. Explication, s'il te plaît.
Ben, ce week-end, il fallait que j'aille dans le Vieux Montréal pour un autre truc, et puis je suis arrêté au un café que j'aime bien, l'Olympico. On sait qu'il y en a un, l'original, dans le Mile End, mais il y en a un dans le Vieux-Montréal, en bas de l'hôtel William Grey, où on peut prendre, pour emporter un café, un bon café. J'aime ce café italien. Mais je regardais les gens derrière moi. Il y avait trois personnes, ne respectaient pas les consignes. La personne portait mal son masque aussi. Ça, c'est spectaculaire. Les gens qui ne comprennent pas que c'est important de mettre le masque par-dessus le nez.
Le nez?
On sait ça, il faut le mettre par-dessus le nez et la bouche, mais je veux dire, il faut aussi le mettre par-dessus le nez. Il faut pas juste le mettre par-dessus la bouche, le fameux masque, là, quand on commande, quand on est en ligne. Et quand cette personne-là est arrivée au comptoir, ben il a baissé son masque à 30 cm du visage du barista. Moi, ça me met honnêtement hors de moi, comme tu dis, je ne comprends pas qu'encore on ait à avoir cette discussion. Et ça me fait penser que, tu sais, les citoyens, on est toujours en train de chialer contre nos gouvernements. C'est toujours la faute des gouvernements. C'est toujours la faute d'en haut. C'est toujours la faute des gouvernements. Cette fois-ci, c'est à nous de bien jouer. C'est aux citoyens de bien jouer. Et on n'est même pas capable de faire ça. Et si on l'échappe beaucoup depuis le début, si les chiffres ne baissent pas tant que ça, c'est de notre faute. C'est beaucoup de notre faute. Parce qu'il y a trop de gens qui encore ne prennent pas ça au sérieux, alors qu'on sait que, comme je dis, la communauté scientifique s'entend. Si on porte bien le masque, si on respecte la distanciation sociale, les chiffres vont baisser. Mais si on ne porte pas le masque, si on porte mal le masque, si on fait, je n'en revenais pas. Puis là, je suis resté calme, mais j'avais vraiment le goût. Puis moi, ma patience est à bout, comme on dit.
Oui, pas mal tout le monde.
Dans l'Irlandais, et je suis resté calme, j'ai dit, fais pas une scène, sors. Mais ça me fascine. Ça me fascine qu'on soit encore là. Et tu sais, je peux comprendre les gens. Et c'est deux débats. Tu sais, je peux comprendre les gens de dire, ben, c'est donc bizarre cette affaire-là. Est-ce que c'est vraiment, ça a vraiment débuté d'un pangolin? Comment ça se fait que la Chine, au début, a peut-être pas tout dit? Il y a des questions peut-être après qu'il va falloir se poser. Je suis bien d'accord. Mais pour l'instant, ce qu'on peut contrôler, ce qu'on sait, c'est qu'il faut continuer d'être discipliné. Sinon, on en sortira pas. On va revenir.
Mais tu sais, Jean-Michel, je pense qu'on a tous, mais bien sûr, tous une responsabilité, évidemment, individuelle. Et en même temps, je pense qu'on a aussi une responsabilité de faire un petit peu, puis là, je me ferai pas d'amis ce matin, de faire un petit peu la police. C'est-à-dire que moi, quand je vois des gens qui se promènent dans les allées à la pharmacie ou dans un commerce, peu importe, et qui portent leur masque tout croche, je leur dis gentiment, évidemment, mais je leur dis, monsieur, madame, vous savez, le masque, c'est super important de le mettre sur le nez, sinon, c'est comme si vous portiez pas de masque. Quand quelqu'un respecte pas le 2 mètres, ben, c'est important de le mentionner gentiment. Écoute, je te donne un exemple, je donne aux gens qui nous écoutent un exemple. Il y a 2-3 semaines, je suis dans un commerce, un truc de crème glacée, de chocolat. C'était une des journées où il faisait beau, en tout cas, peu importe. Et il y avait tellement de gens qui faisaient la file qu'on était obligé de faire la file à l'intérieur. Donc, il y a une dame qui rentre, qui a pas de masque, qui se dit « Ah, c'est pas grave », avec comme un pull, un chandail, là, un col roulé. Elle prend son col roulé, puis elle déroule le bord, puis elle se le met sur la face. Alors, il y a la serveuse qui lui dit « Madame, vous devez porter un masque ». Fait que l'autre, elle dit « Ah, ben là, c'est pas grave, c'est juste une fois ». Fait que là, la serveuse dit « Ok, pour aujourd'hui, c'est correct ». Fait que là, je dis à la serveuse « Ben voyons donc, comment ça, pour aujourd'hui, c'est correct ». Cette dame-là est en train de mettre potentiellement en danger toutes les autres personnes qui sont autour.
Absolument.
Fait que là, j'ai fait ce que je fais tout le temps parce que je suis ma tante à Chaland. J'ai dit, est-ce que je peux voir le gérant? Non, mais je demande à voir le gérant. Et le gérant est arrivé. Ouais. Le gérant est arrivé, puis j'ai dit, écoutez, il y a une dame qui fait la file, qui a pas de masque. Votre collègue pense que c'est correct parce que c'est juste une fois. Moi, je suis pas d'accord. Ben, le gérant a dit, c'est vous qui avez raison, madame. Fait qu'ils l'ont fait sortir, ouais, la cliente. Et il faut... Je veux pas, ouais, être la Gestapo de la pandémie, mais il faut faire respecter ces règlements-là parce que on est tous, cette dame-là a peut-être contaminé d'autres gens. Fait que il faut se tenir debout. Ouais.
Non, mais t'as raison que c'est drôle. C'est vraiment, des fois je le dis. Hier, il y avait seulement un gars dans l'endroit est tout petit d'ailleurs, c'est tout petit. Donc je me disais, ben si le barista qui est là avec son masque en même temps, a bien fait les choses, parce que même à un moment donné, je l'ai vu dire à des gens, attendez, retournez dehors parce que là, on est plus que 5 à l'intérieur en file. Mm-hmm. Donc, je voyais qu'il était quand même autre chose. Mais c'est vrai que tu as raison. Des fois, on dirait que je vais le faire. Puis d'autres fois, je sens une énergie de quelqu'un. Je sens que ces gens-là attendent juste ça pour être encore pire, pour avoir une chicane. Pour, tu sais, c'est ces gens qui cherchent juste une occasion d'être en chicane. Puis on dirait que dans l'énergie, mais tu as raison. Je pense qu'en général, il faudrait le dire, puis il faut le faire gentiment puis poliment. Puis t'as raison de le dire, je pense, au gérant de la place, comme ça. Mais hier, c'était comme... Puis là, quand j'ai vu à la fin qu'il baissait son masque pour se pencher par-dessus ton doigt, je sortais, mais j'ai dit, OK, je m'en mêle plus. Mais sinon, je pense que j'aurais été quasiment trop agressif dans ma façon. tu sais, ça m'énervait tellement que j'ai fait, OK, je m'en vais. Au lieu d'engueuler le gars, parce que je pense que j'aurais eu de la misère à être diplomate et poli. Mais ça me fascine encore qu'encore ce week-end, on a ces discussions-là. Je suis comme, ben là, attendez, là, on n'en sortira pas.
Ouais, puis écoute, c'est vraiment drôle qu'on se parle de ça. Aujourd'hui, en fin de semaine, je vais dans un magasin de magazines et il y a un gars qui rentre, pas de masque. Puis à un moment donné, fait que je parlais avec le vendeur, parce qu'évidemment, il lui a demandé de sortir. Puis je disais au vendeur, il y a encore des gens, ça est depuis le vendredi 13 mars, qu'on est dans la chenoute par-dessus la tête. Il y a quelqu'un encore qui sait pas qu'il faut que tu portes un masque à l'intérieur. C'est hallucinant. Écoute, il y a un autre sujet dont tu voulais absolument nous parler aujourd'hui. Puis comme je le dis souvent, moi, je suis vraiment pas Madame Sport, mais dans ce cas-là, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Kim Ng-gu, première femme directrice générale dans le baseball majeur. Ça, c'est majeur.
Oui, exactement, comme tu dis, c'est marrant. C'est une énorme nouvelle, là. Pensez que quand même le baseball professionnel dans l'Amérique du Nord, c'est l'un des sports majeurs très, très, très importants. Et pour la première fois de l'histoire, on nomme une femme directrice générale d'une équipe. C'est quelque chose de formidable. Et sérieusement, là, je trouve ça formidable. Et pourquoi pas? Et moi, j'aime bien parce que même dans le sport, je trouve qu'en général, trop souvent, il y a des gens qui sont de la vieille école qui vont dire « Alors, quelqu'un ne peut pas être à la tête d'une équipe si cette personne-là n'a pas joué au niveau. » Ce qui est complètement faux parce que les gens qui connaissent le sport voient qu'il y a des équipes championnes qui ont été construites par des gens qui n'étaient pas de grands athlètes. Mais le fait justement qu'ils n'étaient pas de grands athlètes faisait qu'ils étaient forcés à faire leur devoir, à analyser. Ils avaient un regard différent. Alors que souvent, les grands athlètes, ils ont tout naturel, mais ils peuvent pas vraiment l'expliquer parce que c'est un don naturel. Ils ont cet athlète en eux, mais ça veut pas dire qu'ils vont prendre des bonnes décisions. Et donc, cette femme, c'est formidable. Elle est en plus d'origine asiatique, donc elle fait un doublé. Et c'est la première personne d'origine
asiatique. Oui, c'est vrai.
À être directrice générale donc d'un club de baseball. Elle est née à Indianapolis. Elle a grandi à New York. Elle vient quand même d'un milieu assez aisé, on doit dire. Deux parents donc d'origine taïwan-chinoise. Son père était analyste financier. Sa mère travaillait dans une banque. Elle a grandi dans les banlieues de Queens et de Long Island de New York. Elle a étudié à l'Université de Chicago. Et dès le début des années 90, elle a commencé à travailler pour le baseball, pour le club de Chicago. Elle a été assistante gérante. Elle a travaillé pour le baseball majeur. Mais formidable parcours. Et vraiment, je reviens toujours à ça. Il y a quelqu'un dans le baseball qui s'appelle Theo Epstein, qui, à la fin de sa vingtaine, a cassé la guigne des Red Sox de Boston, qui n'avait pas gagné la Série mondiale depuis 100 ans. Et ce gars-là, c'est un genre de jeune intellectuel juif qui n'a jamais joué au baseball au niveau, mais qui était brillant. Et donc, pourquoi pas une femme brillante, de la mettre dans une position comme ça. Et je veux dire aussi que cette année, il y a deux femmes aussi, parce qu'il y a une femme aussi en Suisse qui est directrice générale dans la Ligue nationale suisse, qui s'appelle Florence Schelling. Oui, Florence Schelling, qui, elle, était gardien de but, donc qui, elle jouait au niveau au hockey féminin, elle a représenté l'équipe olympique. Elle avait étudié à Northeastern, d'ailleurs, à Boston, elle représentait son club dans la NCAA. Et elle aussi, au mois d'avril dernier, c'est peut-être passé un peu plus inaperçu, parce qu'évidemment, on était au cœur de la pandémie, mais elle, première femme dans le monde à être nommée directrice générale d'un club de hockey et d'un grand club aussi, il faut le dire, parce que Berne est un des clubs importants en Suisse, c'est la capitale, c'est une des grosses équipes avec des foules de plus de 15 000 spectateurs par match. Donc, il commence à avoir, et moi, pour ça, vraiment, je suis totalement, totalement pas, et sans être flagorneur envers la femme, je me disais, on va boucler avec la pandémie, mais on sait que la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la Finlande, le Danemark et Taïwan a mieux géré sa pandémie que d'autres pays du monde, et qu'est-ce qu'elles ont en commun ces contrées-là? Eh bien, elles sont toutes dirigées par des femmes. Et donc, je me dis, bon, ben, si les femmes ont prouvé au niveau de la pandémie qu'elles pouvaient mieux gérer que les hommes, et ça, il y a beaucoup d'articles, vous irez voir ça, comme quoi ces pays, c'est des femmes qui ont pris les bonnes décisions, qu'elles ont mieux géré que les pays un peu machos dirigés par les hommes. Ben, je me dis, ben, pourquoi pas qu'elle serait pas capable de construire des clubs champions. Donc, en tout cas, je trouve que c'est des nouvelles rafraîchissantes et c'est des nouvelles le fun. Et je trouve que moi, tout le monde a gagné. S'il y a des femmes qui ont la passion du sport et des jeunes filles qui se disent, hey, moi, un jour, j'aimerais ça diriger un club, être directeur général d'un club de sport, ben, pourquoi pas? Il commence à avoir des femmes qui brisent le fameux plafond de verre dans le sport également.
Ben écoute, c'est une bonne année pour les femmes parce que quand même, donc tu nous donnes cet exemple-là dans le sport, Kamala Harris, vice-présidente aux États-Unis, ben enfin future vice-présidente, hein, ça va se passer seulement en janvier. En plus, noire par son père qui est jamaïcain, sa mère est indienne, donc il y a beaucoup de plafonds de verre quand même en ce moment. Cette année, peut-être une année de schnout à toutes sortes de niveaux, mais à certains niveaux, c'est quand même intéressant, différents plafonds de verre là, qui sont fracassés. Je veux juste revenir sur Mme Enge. C'est intéressant aussi parce que, ben, tu sais, on se rappelle, tu sais, le film A League of Their Own, là, sur une équipe de baseball féminin, tu sais, ça va peut-être aussi donner, peut-être par contre-coup, donner le goût à plus de filles de s'intéresser à ce sport-là.
Absolument. Et puis, il y a beaucoup de filles quand même qui... C'est incroyable quand même le nombre de filles qui jouent au hockey, qui jouent au baseball, qui ont des ligues de balle, des trucs comme ça. Donc, il y a toujours eu un intérêt même à regarder au soccer, comment le niveau féminin de soccer est impressionnant. On se rappelle même la victoire de l'équipe américaine à la Coupe du monde féminine. Et donc, je trouve que il faut absolument... briser les barrières, et pourquoi pas, et c'est là que tu vois quand même que c'est encore une société sexiste, il y a encore des progrès à faire, mais c'est des petites batailles, et moi qui est un grand fan de sport, sérieusement, je trouve ça super, je trouve ça formidable, et ça va aussi prouver que peu importe le sexe, on peut faire quelque chose de bien au niveau de la direction, et aussi ça renforce mon analyse qui est toujours, c'est pas vrai que c'est toujours les anciens grands athlètes qui font des grands dirigeants. Souvent, Wayne Gretzky a été entraîneur, ça a été une catastrophe. Maurice Richard a été entraîneur de la première équipe des Nordiques dans la MH et ça a été une catastrophe. Donc, des fois, ça n'a pas rapport. Et tu as des gens donc qui viennent d'autres milieux, une approche plus intellectuelle avec le pas en arrière, une vision plus globale, repenser les choses. Et je pense que les femmes peuvent avoir une vision originale, différente. Et en tout cas, c'est surveillé, mais vraiment, Florence Schelling avec l'équipe de hockey en Suisse et aussi Kim avec les Marlins de la Floride, quand même, qui est une grosse concession de baseball. Donc, je trouve que c'est important de le souligner, là, que c'est une belle nouvelle cette semaine.
Absolument. Puis écoute, on parlait du film A League of Their Own, là, avec Tom Hanks tout à l'heure. Et Sébastien Laperrière, qui est mon collègue à la mise en onde, à la réalisation, a retrouvé l'extrait. Alors, on va se faire plaisir parce que c'est quand même une scène mémorable. Écoute, même moi qui connais pas grand chose en sport, je me souviens de cette scène-là. On écoute ça.
Are you crying? There's no crying. There's no crying in baseball.
Why don't you leave her alone, Jimmy?
Oh, you zip it, Doris. Rogers Hornsby was my manager, and he called me a talking pile of pig shit. And that was when my parents drove all the way down from Michigan to see me play the game. And did I cry?
No. No.
No! No! And you know why?
No.
Because there's no crying in baseball. There's no crying in baseball.
Donc, il y a une fille qui... Il vient de faire le commentaire. C'est comme le gérant ou le directeur de l'équipe. Bref. Et il vient de lui faire un commentaire. La fille, elle part à pleurer. Puis il lui dit, « Hey, moi, là, je me suis fait crier après toute ma carrière au baseball. Est-ce que j'ai pleuré? Non, pourquoi? There's no crying in baseball. » Alors, je sais pas si Kim Ng-jae, elle va faire la même chose quand elle va parler à son monde, mais c'est assez rigolo. Écoute, très rapidement, t'as une minute, Jean-Michel. Je sais à quel point le français est important pour toi. T'as sûrement pris connaissance du reportage de nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec. Se faire servir en anglais uniquement dans la moitié des commerces visités au centre-ville de Montréal, t'en penses quoi?
Ben, moi, je suis de ta génération. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est inacceptable. Et ça n'a pas rapport. On peut être fédéraliste, on peut être... Ça n'a pas rapport. On est dans un endroit francophone. C'est ma ville, c'est ma langue, c'est ma culture. La moindre des choses, c'est de me faire parler en français. Et moi, je suis vraiment là-dessus. Je me gêne pas et je vais le dire. Et contrairement à parfois où j'ai des situations avec le masque par rapport au français, je vais dire, non, attendez, là. Je vais me faire servir en français et je trouve ça inacceptable. Et je trouve, c'est vrai, je trouve qu'il y a un relâchement. C'est un drôle de truc aussi, le centre-ville, présentement aussi, il faut le dire, là. Avec la construction.
Oui, mais ça date pas d'hier, là. Ça date pas d'hier.
Exactement, ça date pas d'hier et c'est un combat qu'on doit toujours rappeler parce que c'est un combat qui n'est pas gagné. Et c'est la moindre des choses. Et comme je dis, ça n'a pas rapport à l'arrêter avec d'autres trucs de ci ou de ça, mais on doit se faire servir en français dans la ville francophone d'Amérique. T'sais, pour moi, c'est un non-sens que ce soit pas le cas. Et que ce soit même discuté, que ce soit même contesté, pour moi, c'est inacceptable. Là-dessus, non. C'est notre langue. Il faut la protéger. Il faut des lois coercitives pour la protéger. Et il faut un minimum de respect envers le français dans cette ville francophone d'Amérique et du monde.
Ben, je ne peux qu'applaudir. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et puis, écoute, c'est important aussi parce que toi, t'es quelqu'un qui a vraiment voyagé partout à travers le monde. Et, je veux dire, il nous viendrait pas à l'esprit, par exemple, d'arriver à Madrid et d'être accueilli par un hola hi, même s'il y a beaucoup, beaucoup de touristes en Espagne. Puis, tu sais, mettons, t'arrives à Paris, là.
Exactement.
T'es accueilli dans une des villes où il y a le plus de tourisme au monde. Mais ils accueillent pas les gens en disant bonjour, hi. Ils disent bonjour. Pourquoi? Parce qu'on est en France puis les gens parlent français.
Exactement. Puis, c'est vrai, rapidement. Là,
rapidement?
Une fois, j'étais en Allemagne à Düsseldorf. Puis, je ne sais pas parler allemand, mais j'avais appris la phrase. Je m'excuse, je ne sais pas parler allemand. Pour expliquer que je voulais un café. Et donc, j'ai commencé à prendre anglais. Et la barista avait trouvé ça tellement gentil que je dis cette phrase en allemand. Elle dit, les Américains font jamais ça. Alors, elle m'avait donné le café.
Oh, ben tu vois comme quoi.
Voilà.
Tu vois comme quoi c'est payant. Exactement. Voilà. Hey, merci beaucoup, Jean-Michel. On se retrouve lundi prochain.
Avec plaisir. Bonne journée, bon lundi.